Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce moment? Alors, on a une attaque d'Office 365, on a Scalway qui lance un service avec le RISC 5, on a Nginx qui redevient libre parce que apparemment il était plus libre à un moment, on en saura un peu plus bientôt, et puis on va revenir au basique comme qu'est-ce que c'est que le DevOps et surtout pourquoi est-ce que le DevOps a tant d'échecs et pourquoi ça coûte si cher. Alors, installe-toi confortablement, prends un petit thé, accroche-toi à ton casque car aujourd'hui on va parler beaucoup de culture DevOps.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Alors, dans cette émission, on décrypte justement l'actu, mais surtout, on y apporte un éclairage de professionnels de l'IT, puisqu'on est tous des professionnels de l'IT. Alors, comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre sélection d'outils. Alors, avec moi, ce soir, j'ai Nida. Bonsoir, Nida.
Bonsoir.
Il y a aussi Nicolas. Bonsoir, Nicolas.
Salut tout le monde.
Et enfin, René. Bonsoir, René.
Bonsoir, Christophe, et bonsoir à toutes et tous.
Et justement, en parlant de toutes et tous, on va passer à la traditionnelle courrier des auditrices et auditeurs. Toi qui es là à nous écouter, sache que tu peux nous laisser des messages par plein de voix. Je t'en parlerai un peu plus tard. Alors, j'aimerais te lire aujourd'hui un message de Orgouz. Orgouz, il nous a laissé un message sur le forum des compagnons du DevOps, puisque les compagnons du DevOps, en plus d'avoir un podcast et une chaîne YouTube, c'est surtout un forum sur lequel on discute. Alors, il nous a laissé un message en commentaire à un épisode de Radio DevOps. Et ce commentaire, il nous dit « Juste un commentaire pour conseiller également l'outil Crane que j'utilise depuis plusieurs années. En ce moment, l'utilité principale est la commande Crane CP qui permet de copier une image directement d'un registre à l'autre sans passer par un daemon Docker local. » Alors, j'ai sélectionné ce commentaire, non pas parce que Crane, c'est formidable, mais surtout pour vous parler de la section des outils. Déjà, ça confirme qu'il y a un intérêt flagrant pour la section des outils, donc on va continuer à vous fournir en outils à chaque épisode d'Actu DevOps. Ça te plaît et ça t'est utile. Mais surtout, j'ai une grande annonce à faire. Alors, René nous avait fait une proposition et il nous a fait une merge request sur le dépôt qui gère le site des compagnons du DevOps pour créer justement une page d'outils. Et cette page d'outils arrive sur le forum, enfin sur le site des compagnons, pas le forum, sur le site des compagnons. Et avec Céleste, notre développeuse, on l'a retravaillé cette merge request pour en faire la page qui est actuellement sur le site. Alors, au moment où sort cet épisode, tu pourras voir la belle page des outils avec tous les outils qui ont été cités et listés dans Actu DevOps, avec qui l'a proposé, qu'est-ce que ça fait, etc. Et petit à petit, il y aura en plus des liens vers la section précise YouTube où on parle de l'outil. Donc tu peux aller sur compagnon-devops.fr, tu verras dans le menu du haut, tu as le lien qui t'amènera sur la page des outils. Et je vais laisser la parole à René, puisque c'est lui qui est à l'initiative de cette proposition. Il va pouvoir nous dire ce qu'il veut là-dessus.
je trouvais que c'était... Il y a une centaine d'outils qu'on a listés depuis le début de qu'on a commencé les enregistrements. Et puis, il y a quand même des belles pépites dans ces outils. Donc, je trouvais que c'était pas mal d'en faire une liste. Et puis, j'espère que ça plaira à tout le monde. Après, je suis un peu impressionné que tu aies mergé ce que j'ai fait, parce que c'était en React. J'avoue que je savais pas du tout ce que je faisais hein, quand j'ai fait ça. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop pourri.
Bah écoute, tu pourras demander à Céleste, notre développeuse, elle a revu complètement ça et puis elle a apporté des améliorations sur ce que j'imaginais, ce que pouvait être cette page des outils pour la rendre plus ergonomique justement, parce que maintenant il y a une recherche et ce genre de choses qui permettent de faire ça. Et puis là, je suis en train de les classer par type. Alors, je sais pas encore comment je vais faire, mais pour avoir des types d'outils. Du coup, Nida, qu'est-ce que tu penses de ça? Déjà, est-ce que tu suivais toi les outils avant de nous rejoindre?
Je dis pas du tout. Je suis pas du tout.
Bah, tu pourras aller voir justement tous les outils qu'on a listés, puisqu'il y a une centaine d'outils. Je sais qu'il y a une page sur le forum, mais c'est peut-être moins pratique sur le forum.
Ouais, c'est surtout que moi j'ai une to-do list qui est tellement énorme que c'est compliqué.
Et toi, Nicolas, tu as un avis là-dessus?
Ouais, c'est super bien parce que j'aime beaucoup cette rubrique quand on l'a fait. Je participe au podcast, ça m'oblige à les regarder, donc c'est pas mal. Ça me permet d'épurer la to-do list au fur et à mesure. Et en fait, René, merci beaucoup. Ça va surtout nous aider à pas faire de doublons dans les prochains épisodes.
C'est vrai, j'ai commencé. Alors, pour l'instant, au moment où on enregistre cet épisode, la page n'est pas encore en ligne, mais moi, j'ai accès à la page en preview et j'ai déjà commencé à regarder pour voir si l'outil dont je vais parler, il y était. Donc, j'espère ne pas avoir fait d'impair. Du coup, toi aussi, tu peux nous laisser un message. Alors, tu peux utiliser les plateformes de podcast comme Apple Podcasts, Podcast Addict ou d'autres qui permettent de laisser des messages. Tu peux aller sur YouTube pour laisser un message dans le commentaire, tu peux aller sur les posts réseaux sociaux, sur Twitter, on dit X maintenant, LinkedIn, et puis les autres réseaux sociaux où je suis un peu moins parce que ça demande tellement de temps d'être partout que c'est pas possible. Et surtout, tu l'auras compris, tu peux laisser un message sur le forum des compagnons, et je sais qu'il y a beaucoup de messages qui sont laissés sur le forum des compagnons. Et pour nous rejoindre sur le forum des compagnons, tu t'inscris sur le site, c'est hyper simple. Alors, on va passer à la première news. Et la première news, c'est Nicolas qui va nous parler de mon très grand ami.
Oui, notre très grand ami Microsoft. Alors, on va pas taper dessus parce que c'est Microsoft, mais et surtout, ce qui leur arrive, ça arrive à beaucoup de monde. Donc, en ce moment, ils subissent une attaque par le groupe APT29. Donc, APT29, vous connaissez peut-être pas, c'est Midnight Blizzard, vous connaissez peut-être encore moins, c'est connu aussi sous le nom de Nobelium, vous connaissez peut-être pas non plus, et a priori, c'est un groupe russe qui s'attaque aux institutions et organisations européennes et américaines. Donc, je dis bien a priori, puisque l'assignation des groupes d'attaquants APT, donc c'est des hackers, hein, pour parler autrement, c'est toujours un petit peu difficile. Je ne vais pas trop m'attarder sur qu'est-ce que c'est comme attaque, machin, etc. Ce qui m'a paru intéressant, c'est comment ils ont réussi à commencer à attaquer le système. C'est qu'a priori, c'est des mots de passe qui ont été envoyés par mail. Et ça me fait toujours bizarre d'entendre que on est en 2024, c'est ça. Il y a des mots de passe qui sont envoyés par mail. Je voulais reparler un petit peu de ça parce que c'est quand même une bonne pratique, c'est ne jamais transmettre de secrets par un canal non sécurisé. Et quand vous le faites, essayez d'utiliser des moyens de communication différents pour envoyer d'un côté le user et de l'autre côté le pass, des choses comme ça. Et justement, ça m'a donné l'idée de reparler dans les outils de l'épisode. Donc écoutez bien jusqu'à la fin, j'ai quelques solutions à vous proposer pour vous éviter d'envoyer des mots de passe par mail. Et toi, René, est-ce que tu envoies tes mots de passe par mail?
Non, j'évite. À force de t'écouter, je me dis qu'il faut pas le faire. J'étais pas au courant de cette nouveauté. Et tu peux juste dire un petit peu ce qui au niveau Microsoft, c'est quelque chose qui dure. Comment ça, juste deux mots si tu sais.
Alors j'en ai entendu parler ce matin. J'ai creusé un petit peu le contenu de la news. Donc a priori, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû réussir à prendre le contrôle sur quelques boîtes mail. Ils se sont servis des credentials qu'il y avait dans les mails pour se connecter à Office 365 et commencer à exfiltrer plein de données. Et alors après, je crois que ça touche aussi Microsoft parce qu'ils ont dû toucher des trucs. Je n'ai pas vraiment creusé, mais a priori, ils arrivent à faire pas mal de choses. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que, ça on en a déjà parlé, mais ce qu'il y a d'important dans une attaque, c'est comment on réagit. Et Microsoft communique assez clairement sur le sujet. Il y a un post de blog, un post de blog qui en parle, qui explique ce qui se passe et comment réagir. Après, j'avoue que j'ai pas vraiment creusé le truc. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était le vecteur d'attaque qui a été utilisé. Alors, ils sont sûrement très doués dans le piratage, mais ils ont simplement utilisé des mots de passe qui ont été envoyés en clair. Donc, si jamais un jour on vous envoie un mot de passe en clair, parce que des fois c'est le moyen le plus simple, le plus rapide et ainsi de suite, changez-le dans la foulée. Parce que ça peut arriver qu'on envoie un mot de passe par mail. Moi, ça m'arrive. Par contre, je dis bien à l'utilisateur, changez-le tout de suite. Et comme j'en avais marre d'envoyer les mots de passe en clair, j'utilise des outils comme 1Password qui permettent d'envoyer un lien privé qui est valable que pendant un certain temps et un certain nombre de clics et le lien expire automatiquement et ainsi de suite. Mais ça nécessite 1Password et je vais vous proposer autre chose tout à l'heure. Et toi, Christophe ?
Alors, moi déjà, ça me fait penser qu'on a fait un épisode de podcast sur les secrets dans l'InfraScode où on parle justement dedans comment échanger les mots de passe dans notre équipe. Donc je te renvoie, cher auditeur, à notre épisode. Il y aura une fiche YouTube et puis ce sera dans les liens de l'épisode. Moi, ce que on a tendance à oublier en fait que les mails c'est un moyen de communication qui est pas chiffré et qui transite en clair comme tu l'as dit. Ce qui fait que en plus un mail, il peut arriver sur n'importe quel serveur de mail et être envoyé vers n'importe quel serveur de mail. Donc, n'importe qui gère un serveur de mail peut, a priori, regarder ce qui passe sur son serveur si c'est pas chiffré. Alors, déjà, on peut chiffrer les mails, mais ça nécessite d'envoyer la clé de déchiffrement à nos interlocuteurs, interlocutrices. Ça, c'est un premier point. Et moi, ce que je fais, c'est que, en effet, je fais, comme t'as dit, je n'envoie jamais le mot de passe et l'utilisateur, s'il y en a un, en même temps et par le même canal. Donc soit j'utilise le mail pour envoyer le mot de passe, et plus généralement j'envoie pas le mot de passe, j'envoie un lien vers mon Bitwarden, et souvent ce lien il est protégé par un mot de passe que j'envoie par texto par exemple à la personne. Donc ça permet justement d'éviter ce genre de choses, sauf si c'est évidemment un mot de passe qui va être changé très rapidement. Dans ces cas-là, moi, c'est assez simple. J'utilise l'adresse email de la personne comme mot de passe et je lui dis, change-la, ton mot de passe, c'est, parce que voilà, c'est pas très sécur. Et puis sinon, on utilise le chat, mais comme c'est nous qui gérons notre chat Mattermost, a priori, les canaux privés, il y a peu de gens à part nous qui peuvent aller étudier ça. Mais bon, ça reste à voir. Et toi, alors Nida, comment tu fais justement les échanges de mots de passe, et qu'est-ce que tu en penses de cette histoire?
Je vais parler déjà de ma gestion des mots de passe. Donc, j'envoie sur deux canaux différents, le login sur un canal et le mot de passe sur un autre. Comme moi, je travaille essentiellement dans un environnement Microsoft, on a une fonctionnalité quand c'est un compte Active Directory qui oblige l'utilisateur à changer son mot de passe. Donc, ce qui nous permet déjà d'assurer un minimum de sécurité. Comme quoi, tout n'est pas mauvais chez Microsoft. Et donc, c'est login par mail. Et le mot de passe, ce sera soit sur la messagerie, donc le Teams ou équivalent, ou carrément par SMS. De toute façon, quoi qu'il arrive, on a très peu de canaux réellement sécurisés en soi. Donc, c'est vraiment forcer l'utilisateur à changer son mot de passe directement, première connexion, changement du mot de passe, et après, c'est aux développeurs de bien faire leur boulot et d'offrir la fonctionnalité lors de la première authentification de changer le mot de passe.
Ou encore mieux, dire à l'utilisateur, je t'ai mis un mot de passe, mais je te le donnerai pas, donc tu vas sur la page pour réinitialiser ton mot de passe et tout passera par mail, donc... Comme ça, il n'y a rien qui transite de secret et c'est beaucoup plus simple. Mais effectivement, il y a des outils qui permettent pas de le faire.
toute façon, on vit pas dans un monde idéal. Hein.
Voilà.
Et après, il y a quand même...
Ah, vas-y.
Pardon, excuse-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis des fois un peu choqué par certains sites où tu as des limitations dans les mots de passe que tu peux mettre. Genre, tu peux pas mettre certains caractères, des choses comme ça. Ça, c'est un truc... Et c'est, je trouve que c'est pas mal sur des sites français. Et je trouve ça assez... voilà, pas génial ici, mais ça dénote quand même de... Voilà, ça donne pas une super grande confiance.
Il doit y avoir une super librairie de gestion de, du chiffrement du mot de passe derrière.
C'est vrai que moi, quand je vois des mots de passe qui sont limités à 12 caractères, ou qui en mettront 2 déjà de base, je peste un peu à chaque fois. Et en effet, parfois, il y a des mots de passe où on te dit, bah voilà, t'as pas le droit à l'étoile, t'as pas le droit au machin, t'as pas le droit au truc. Et donc là, t'es avec ton... Parce qu'évidemment, c'est pas moi qui crée les mots de passe, ça, c'est mon logiciel de mot de passe qui les crée pour moi. Et ben, tu es en train de te dire, attends, il faut que j'enlève tout ça. Du coup, tu te retrouves parfois, ça m'est arrivé 2-3 fois, à modifier le mot de passe qui est généré pour coller à ce que nous demandent certains sites. Alors, par pitié, si tu développes un site avec gestion des mots de passe, plus de 20 caractères, et puis tous les caractères possibles et inimaginables, si c'est l'Unicode évidemment, si c'est pas l'Unicode. Hein. Mais bon, je sais pas s'il y a des gens qui mettent des emojis dans leur mot de passe.
Et utilisent une librairie du style Bcrypt pour tout faire à ta place, parce que c'est devenu presque un standard, et ça va t'éviter pas mal de problèmes. Et on va peut-être pas parler des banques qui t'obligent à mettre que des chiffres et entre 4 et 6 chiffres, parce que sinon on va y passer la soirée.
Oui, bah, je voulais continuer un petit peu sur le côté sécurité. Les développeurs, arrêtez avec le SH5, s'il vous plaît, aussi pour le. C'est une passoire. Voilà. l'attaque de Microsoft date de mi-janvier, de mémoire. Parce qu'il y a eu le code source aussi, une partie du code source de Microsoft qui a fuité. Voilà, petit complément d'information.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la parole à Nida pour la news suivante.
Ouais, parce que toutes ces histoires de mots de passe, c'est un truc très important dans la gestion du risque. Et du coup, Nida va pouvoir prendre la suite.
Maintenant, sur ma news, moi, c'était pour parler de RISC-V. Je crois que René en avait déjà parlé, si je ne me trompe pas. Donc il y a Scalaway qui a sorti 29 février une offre en mode bêta, ouais, on peut dire ça bêta, ou plutôt laboratoire, d'une offre risque 5 ou risque 5, donc qui est un petit peu cher pour moi au niveau du prix. On n'est pas loin de 16 € le mois. Cette offre-là donc permet d'avoir 16 gigas de RAM, un stockage de 128 gigas, ce qui est quand même pas mal, et permet de découvrir l'architecture RISC-V en 64 bits. Derrière, l'architecture, du moins le SoC utilisé par Scalaway, c'est un SoC qui nous provient de Chine. C'est le TED TH1520, ça va pas vous parler. C'est une succursale d'Alibaba qui est basée sur des cores C910. Désolé pour le côté technique. Et c'est actuellement c'est ce qu'on trouve d'un peu de plus puissant sur le marché en termes grand public. C'est vraiment intéressant. On est à peu près sur l'équivalent d'un Pi 4 en termes de performance. Et faut voir que l'écosystème RISC-V qui est proposé chez Scalaway, on va déjà avoir une limitation au niveau des systèmes d'exploitation qui va être très importante à prendre en compte. C'est que tout n'est pas disponible en OS sur cette architecture CPU. Donc on va avoir Debian en version SID, donc test. On va avoir Alpine Linux en version Edge, donc c'est l'équivalent de la SID chez Debian. Et on va l'avoir en Ubuntu 23.10, si je ne me trompe pas, qui est la seule à être à peu près être stable. Une fois que vous l'avez installée, vous allez avoir il y a de plus en plus de logiciels qui sont portés, mais vous allez vous retrouver avec des librairies Python par exemple qui ne sont pas du tout portées actuellement pour RISC-V, ce qui peut poser des problèmes. Parce que j'ai fait un test avec de l'IA et je me suis retrouvé embêté sur certains petites conversions de bibliothèques parce que c'était pas porté sur RISC-V. Et donc vous avez beaucoup de choses qui vont vous rappeler le début du RISC-V, des Raspberry Pi. Au tout début, vous aviez des problèmes de librairie. Actuellement, on est dans cette partie-là chez RISC-V. Et on est encore dans le monde du développement. On n'est pas sur quelque chose de stable. C'est pour découvrir l'infrastructure. Je remercie vraiment Scalaway d'avoir fait cette offre-là parce que c'est vraiment très intéressant. Surtout avec le processeur, une carte équivalente dans le commerce, faut vous compter environ 150 euros hors stockage SSD. Scalaway utilise des racks qui nous viennent du fabricant chinois Cipid. Dessus, c'est 8 cartes. C'est 8 cartes RISC-V qui sont marquées dessus, du moins qui sont pluguées dessus. Et ces cartes-là se partagent une connexion réseau de 100 mégabits. Donc vous êtes 8 sur 100 mégabits. Donc au niveau performance réseau, ça va un petit peu coincer. Si vous bombardez, mais c'est du test, donc ça ne devrait pas trop poser de problème. Et et sinon, Cipid m'a donné sur X une petite info qui était très croustillante pour moi. C'est qu'ils sont en train de travailler sur un nouveau cluster qui va utiliser de nouveaux processeurs de chez C5, le P550, qui va permettre vraiment un gain de performance encore un peu plus important. Mais j'ai pas encore les détails de quand ils vont sortir le produit, parce que RISC-V, si je prends le processeur P550, était annoncé en 2020. Donc voilà. Et il n'y a qu'une seule carte réellement sur le marché qui est aux alentours de 500 ou 600 euros hors taxe, hors frais de port et hors frais de douane. Et là, on aura vraiment de la performance qui sera intéressante. Mais voilà, globalement, c'est vraiment pour découvrir l'infrastructure RISC-V. Pour ceux qui vont regarder en vidéo, voilà, je vous mets... mince, allez, où ma cam. Moi, j'ai une carte RISC-V à la maison. Je m'amuse depuis un an dessus. Et je vois que l'écosystème s'améliore grandement, mais il ne faut pas vous attendre à des performances pour le moment exceptionnelles. Acheter un P5, ça va dépoter. Voilà.
Eh ben merci. Je vais peut-être apporter juste quelques compléments. Je vois que la bêta, elle est disponible. Donc chez Scalaway, dans l'interface, il y a plusieurs offres. Et il y a notamment les instances qui sont des VM et les barres métal as a service. Et donc le RISC-V est dans la partie Elastic Metal, donc c'est des barres métal as a service. Ce qui veut dire que quand on a une instance, tu le confirmeras peut-être Nida, mais on a justement une instance physique. Et c'est peut-être pour ça que c'est cher. Alors pour toi c'est cher, mais finalement j'ai comparé les prix avec les instances virtuelles. C'est pas si cher que ça en fait, par rapport au CPU, aux puissances équivalentes. Alors évidemment, avec le réseau et tout, ça se discute, mais c'est pas hors de prix.
Pour moi, ça l'est. Mais je pense que Scalaway ne rentre pas dans ses frais.
Non, mais clairement, je pense pas. Moi, je vois... Alors pour l'instant, je vois pas encore le cas d'usage générique. J'en vois un, par contre, c'est pour à chaque fois, pour pouvoir faire des runners pour nos intégrations continues, pour créer des logiciels pour ces architectures-là, parce que c'est bien de les faire tourner sur ces architecture. Mais est-ce que, justement, Nicolas, René, vous, vous voyez des cas d'usage pour ce type de, d'instance? Alors, pour l'instant, on est en laboratoire. Donc, c'est vraiment, comme tu l'as dit, Nida, c'est pour explorer. Mais projetons-nous un peu dans l'avenir.
Je pense que c'est ça. C'est vraiment se projeter dans l'avenir. Et alors, à la fois, il y a le côté nouvelle architecture. Si c'est un petit peu comme l'ARM, au niveau performance énergétique, ça peut être intéressant. Au niveau diversité, ça peut être pas mal aussi. On a vu des attaques sur les processeurs Intel et AMD.
ARM aussi.
Bah voilà, c'est ça. Donc si on a la même chose sur ARM, bah là, ça nous fait une plateforme de plus. Donc diversifier son parc en termes de sécurité, c'est toujours intéressant. Et l'aspect qui m'intéresse encore plus avec le risque, c'est que c'est une architecture qui est un petit peu moins liée aux Américains et autres Chinois. Donc on aurait peut-être un petit peu moins les mains liées avec eux. Et ça nous permettrait sûrement d'avoir un petit peu de souveraineté. Après, sur le côté financier, bon, bah, 15 euros par mois, je trouve que c'est relativement abordable pour une plateforme comme ça. Bon, effectivement, le réseau est pas terrible, mais quand on regarde les prix des autres instances, pour avoir 16 gigas, il y en a qui sont pas loin de 60-80 euros. Le stockage est un petit peu faible, et si le réseau est pas terrible, de toute façon, vous allez pas faire des serveurs de streaming avec cette architecture-là pour l'instant, puisque Nida l'a dit, vous arriverez pas à compiler vos trucs dessus. Donc c'est plus oui non c'était une boutade mais l'idée c'est plus de prendre ces plateformes là pour commencer à jouer avec, commencer à compiler vos trucs dessus pour voir si ça fonctionne et quand vous aurez vraiment des problèmes de perf avec, je pense qu'il y aura des offres beaucoup plus intéressantes. Mais Scaleway, ils ont toujours fait comme ça, hein. Ils ont commencé avec des petites offres en fonction des retours des utilisateurs, ils ont amélioré. Les offres qu'on connaît aujourd'hui sur la partie Elastic, Cloud, je ne sais plus comment ça s'appelle, la partie bar metal et ainsi de suite, ils l'ont fait évoluer avec le temps et avec tous les retours qu'on leur a fait, bah, ils ont sorti certaines offres, ils en ont rajouté d'autres et ainsi de suite. Donc non, c'est Scaleway, ils m'étonnent de plus en plus, ils font des trucs vraiment innovants. C'est pas mon fournisseur préféré pour plein d'histoires, mais on peut au moins leur allouer le fait qu'ils font beaucoup d'efforts pour faire bouger l'écosystème et sur des trucs sur lesquels on les attend pas, parce que finalement on en parle souvent, c'est les opérateurs français sont pas au niveau des Américains. Bon, bah, au moins ça, même si c'est pas chez les Américains, au moins c'est un truc qui permet de se démarquer. Voilà. Et toi, René, t'en penses quoi ?
Bah, déjà, moi, je vais dire merci à Nida de suivre un peu ce qui se passe sur RISC-V, parce que oui, j'en ai parlé il y a longtemps. Je pense que c'était... ça avait déjà pas mal avancé, mais voilà, c'était encore plus embryonnaire que ce que ça allait. Et je trouve que ça a quand même bien progressé, parce que bah, aujourd'hui, on a du matériel qui arrive. Alors, c'est pas encore la folie en termes de performance, mais bon, ça a bien progressé. Et puis, ben voilà, ça devient crédible. On arrive à avoir des OS qui tournent. Certes, c'est pas parfait. Il y a encore des choses à cross-compiler, etc. Mais ça va rentrer dans l'ordre. Le soft, il va arriver. Je crois beaucoup en RISC-V parce que je pense que c'est le fait que ce soit de l'open hardware et qu'il y ait moins d'IP. À un moment, il va avoir un effet sur le coup, je pense, qui va être intéressant, et les prochains serveurs vont arriver en termes de rapport, je pense, performance-prix, je pense que ça va être intéressant. Je peux me tromper, hein, bien sûr. Voilà. Mais donc ouais, je trouve que c'est bien d'avoir Scaleway là qui avance sur ce genre de choses, qui permet de mettre à disposition ce matériel. Parce que jusqu'à maintenant les cartes étaient quand même assez chères. Et voilà, ça permet un petit peu de se familiariser. Je pense que ça a un intérêt, par exemple, pour les gens qui font de l'embarquer, justement, de se familiariser avec l'architecture, etc., de travailler sur le vrai jeu d'instruction. Donc, je pense que ça reste quand même toujours un peu de la niche, mais je pense que c'est intéressant.
Oui, c'est de la niche, mais peut-être qu'on verra dans l'avenir de plus en plus d'applications tournées là-dessus, surtout si les prix diminuent. Comme je le disais, en fait, par rapport à des instances cloud chez Scaleway, toujours chez Scalware, parce qu'on pourrait comparer ça à des machines type VPS et autres. Comme on profite de l'écosystème cloud de Scalware, c'est pas si cher que ça par rapport à leurs autres instances. Alors bien sûr, c'est pas la même utilité, mais en se projetant dans l'avenir, on peut imaginer des cas assez particuliers qui tournent sur ce genre de machine, sur des ARM, et qui tourneraient pas sur des VM classiques. Et puis notamment, il y a le côté, comme tu le disais Nicolas, performance énergétique qui est super intéressant, je pense. Bon, pour l'instant, c'est que dans 3 data centers, mais c'est normal, c'est en laboratoire, c'est 2 sur Paris et 1 sur Varsovie, je crois. J'ai plus la console devant moi.
Je sais plus non plus, j'ai plus ça en tête. Et je voulais rajouter des choses sur. Là, je vais revenir vraiment sur la partie RISC-V. L'architecture ou LISA, qui est le terme adéquat. C'est prévu pour fonctionner en 32 bits, 64 bits, 128 bits. À l'heure actuelle, vous avez du RISC-V 32 bits qui tourne dans tous les disques durs Western Digital et Seagate en des contrôleurs RISC-V 32 bits. Vous avez les montres connectées premier prix qui sont sur des RISC-V 32 bits. Donc le RISC-V 32 bits est déjà dans la vie réelle. Et au niveau industriel, vous l'avez dans des microcontrôleurs, style Arduino ou autre. Le RISC-V en 32 bits est vraiment opérationnel. Là actuellement, on est sur le RISC-V 64 bits qui est en cours de progression. On va avoir dans le futur, on va avoir la virtualisation qui va arriver. On va avoir des unités de calcul supplémentaires qui vont pallier une grosse faiblesse de RISC-V sur les calculs de chiffrement. Les calculs SSL sont une catastrophe sur RISC-V. RISC-V actuellement est utilisé. Il y a des produits commercialisés professionnels pour délivrer du contenu. Il y a des en 64 bits, il existe des serveurs pas très répandus, c'est encore un marché de niche, mais il y a déjà des produits à destination des serveurs qui existent. Au niveau de la recherche, on a le CEA qui travaille sur des RISC-V 128 bits, donc ça va arriver au niveau des supercalculateurs. D'ici quelques années, ça pourrait être les premiers supercalculateurs 128 bits potentiellement en RISC-V. Le RISC-V sera intégré dans le supercalculateur européen. C'est une boîte française qui bosse dessus. On a l'entreprise MIPS qui fait des processeurs qui portent le même nom, qui a arrêté de faire ses propres processeurs pour faire du RISC-V maintenant. C'est pas parce que c'est une architecture qui est libre que les processeurs vont pas coûter cher. Parce que derrière, vous devez faire un développement pour le silicium, travailler avec les usines de les fonderies, et tout ça, c'est un boulot qui est monumental. Chez ARM, vous achetez un produit sur étagère. Donc vous avez des... du volume qui fait que c'est très intéressant. Faire quelque chose qui est vraiment sur mesure, ça a un coût. Si vous ne faites pas de volume, ça va vous coûter très très cher. Apple fait du sur mesure, mais ils font du volume, donc ce qui arrive à avoir des prix à peu près corrects.
Quand tu dis sur étagère, c'est le design du processeur qui est sous licence. Mais chaque constructeur peut construire son propre processeur ARM. C'est ce qu'a fait Apple. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est fondre du silicium, c'est un coût. Et c'est comme tout dans l'industrie, rien que le prototype, faut sortir le chèque. Et c'est pas 3 chiffres que tu mets sur le chèque. Donc,
C'est un peu plus compliqué que ça. Chez ARM, en fait, ils te vendent quelque chose. Un SOC, c'est un amalgame de différentes puces qu'on associe. Et chez ARM, donc ils fournissent genre les Cortex A75, tu arrives chez un fondeur, ton process, tu vas fondre directement. Tu vas pas avoir toute la partie où tu dois adapter ton design en fonction du fondeur. Parce que ton design ne sera pas le même si tu le fais chez TSMC que chez Samsung. C'est plein de petits détails comme ça. Et quand tu pars d'une feuille blanche, c'est très compliqué de faire un processeur de vraiment de zéro. De dire je vais aller à la fonderie le faire. Les premières sorties, t'auras du rébus parce que tu te seras planté. J'avais pas pensé à cette gate, les portes dans le silicium avec un isolant. Donc tu es obligé de revoir ton design en intérieur et tout ça, ça a un coût.
D'ailleurs, même Apple s'est basé sur de l'ARM alors qu'ils auraient très bien pu faire leur propre processeur et. Ça leur a permis de gagner du temps et puis voilà. Et sinon, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le marché de niche. Effectivement, c'est un marché de niche, mais ARM l'a été pendant longtemps et on voit que ça a explosé ces dernières années, à la fois avec tout ce qui est Raspberry et compagnie, on va dire. Et quand on voit ce qu'a fait Apple avec la partie ARM, on se dit que à la base, avec un petit processeur qui n'était pas performant, qui coûtait pas cher, il y a plein de boîtes qui en ont fait des trucs vraiment super.
Pour moi, c'était pas un marché de niche ARM. Comme MIPS, sauf que les gens l'ont connu dans le grand public, mais vous l'aviez déjà dans différents équipements, dans les voitures. Au niveau informatique, dans des routeurs, dans des switches, c'était des choses qui étaient massivement vendues. Et c'est juste que le grand public l'a connu. Mais pour moi, ça n'a jamais été de niche. Peut-être parce que je suis aussi trop dans le matériel.
C'est vrai.
Quand tu regardes, c'est un petit peu ce qui a l'air de se passer pour RISC-V quelque part, parce que ça arrive justement dans le matériel, comme tu dis, dans les disques, etc. Oui. On embarquait aujourd'hui, là ça devient quasiment courant. Après voilà, peut-être ça va pas se développer, mais je pense que c'est quand même une tendance qui est à la hausse, à mon sens. Et j'espère que ça va marcher après.
Apple et Google sont dessus, il y a même un portage d'Android sur RISC-V qui est fait.
On verra donc ce que l'avenir nous réserve. Je vous propose qu'on clôture là sur le RISC-V, et que l'on parle du sponsor du mois. Et ce mois-ci, ce sponsor, c'est un collectif de freelance. C'est mon collectif de freelance, celui qui finance les compagnons du DevOps depuis le début de l'aventure. L'Hydra, donc, c'est un collectif d'indépendants qui est spécialisé dans le mouvement DevOps. On aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications rapidement et sans couper leurs services. Donc, on a une philosophie qui est simple. On pense que l'amélioration continue et la collaboration entre les équipes dans une même entreprise sont essentielles pour atteindre facilement et sereinement les objectifs qu'on s'est donnés. On a des spécificités comme on aime le logiciel libre, on aime la souveraineté numérique, ça je pense que tu l'auras compris. On est plutôt spécialisé dans le déploiement continu avec GitLab CI, Ansible et Terraform. Et surtout, on est membre d'une coopérative d'activité et d'emploi ou coopérative d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. Ça nous permet justement d'être freelance avec le statut très avantageux d'entrepreneur salarié au régime général. Ça, on peut en plus avoir une fiche de paye. Ça, c'est très bien. Bon, nos services, ça va de l'audit au mentorat en passant par la formation et la prestation. Pour l'instant, on est 3 freelances. Donc, si tu es freelance et que tu souhaites rejoindre un collectif qui veut grandir, tu peux nous rejoindre, c'est possible, on est ouvert, faut partager nos valeurs, avoir envie de rejoindre notre société pour profiter justement de ce statut d'entrepreneur salarié, c'est un statut un peu particulier, mais c'est un statut qui l'est bien. Donc, tu peux aller sur notre site lhydra.fr, regarder ce qu'on fait, et puis prendre contact avec moi, soit sur les réseaux sociaux, soit sur le forum, tu trouveras comment me contacter, on s'organisera des visios, on papotera. Et si toi, tu es dans une entreprise et que tu cherches des freelances ou des personnes qui connaissent bien Ansible et GitLab CI, pense à faire appel à nous. Je suis sûr qu'on pourra t'accompagner et t'aider. Nicolas, tu vas nous parler de Nginx qui n'était plus libre, c'est ça ?
Alors, on pourrait troller sur le fait que les boîtes qui se font racheter par d'autres compagnies et qui commencent à faire des trucs un petit peu moins open source, et ben justement, on va parler de Nginx qui a été racheté en 2019 par F5 Network ou F5 Network. Donc, ils ont racheté la société qui a créé Nginx. Pour rappel, Nginx, ça a été développé par des Russes et notamment Maxim Dounine. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Et donc, c'est un des principaux développeurs qui était derrière le projet initial. Le problème, c'est qu'en 2022, F5 a fermé les bureaux de Moscou. Donc, Maxim s'est retrouvé sans bureau. Mais dans l'histoire, ils ont signé un accord avec lui pour qu'il continue à contribuer sur la partie open source. Ceci bénévolement. Donc, ils sont sympas, les Russes. Je ne sais pas comment ils font pour manger, mais... Et en fait, en 2024, il s'est passé un truc très marrant, c'est que la société a commencé à vouloir faire plus d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se mêler un petit peu des questions de sécurité, du style « non, mais ce patch-là, c'est pas la peine de le mettre en open source, on va le garder sur la version un petit peu plus pour nous, et puis on va peut-être pouvoir vendre un petit peu plus de prestations grâce à ça ». Et donc, Maxime... était un petit peu saoulé de cette histoire, donc le 14 février, il a créé un fork un petit peu plus libre, donc il a dû vouloir, je crois que c'est le 14 février, hein, il a dû vouloir faire un cadeau de la Saint-Valentin à sa copine et faire un fork plus libre. Oui, c'est ça, c'est le 14 février, oui, la date me paraissait un petit peu bizarre. Donc, comme quoi, faut pas perdre espoir. Des fois, des projets open source qui se font racheter peuvent très bien redevenir un petit peu plus libres comme avant. Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que Nginx, c'est quand même un super produit. Le fait qu'il y ait eu une boîte qui vendait du propriétaire dessus, c'était une bonne idée parce que c'est un bon moyen de financer l'open source. En plus, ils étaient relativement fers. Hein. C'est pour une utilisation assez basique, le produit restait open source et la version Enterprise permettait de faire des choses beaucoup plus avancées. Par exemple, si vous vouliez l'utiliser pour faire du load balancing un petit peu intelligent, il fallait prendre la version Enterprise. J'ai fini là-dessus. Et toi, René, est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que tu crois qu'il va se faire racheter dans 2 ans et pour la Saint-Valentin de 2028, il va recréer un fork libre?
Alors ça, je sais pas te dire. Mais ouais, non, je pensais plutôt. Déjà, c'est possible. Donc avec le logiciel libre, c'est quelque chose qui est une alternative qui est possible, qui n'est pas forcément possible avec un logiciel propriétaire. Donc ça, c'est un des plus. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. on retrouve un produit, un bon produit qui va nouveau libre, qu'on peut utiliser de manière plus ouverte. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Nida, qu'est-ce que t'en penses ?
Pas forcément grand chose de plus, on va dire, ça fait partie de la tendance à l'heure actuelle du business, on va dire ça comme ça, de ce qui entoure le logiciel libre.
Ouais, moi c'est pas quelque chose qui a tendance à me rassurer, cette mainmise propriétaire sur les logiciels qui a tendance à se refermer. Néanmoins, Free Nginx, puisque c'est son nom, je suis pas sûr que déjà il remplace Nginx tout de suite, parce que il faut déjà que les gens savent qu'il existe. On est là pour ça, hein, mais on n'est pas encore très très connu non plus. Et puis c'est pas dit que les gens l'installent comme ça, parce qu'il est encore tout jeune ce projet. Typiquement, quand je vois la documentation, alors déjà, je trouvais que la doc de Nginx, elle n'était pas très ergonomique, mais bon, la doc de Free Nginx a repris l'anti-ergonomie de Nginx en allant encore plus loin. C'est vraiment très austère, il n'y a pas de recherche possible, ça devient très compliqué. À mon avis, il faut passer par un moteur de recherche externe pour savoir ce qu'on va trouver. Mais je pense que c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire que Free Engine s'y fait très... Alors là, je parle je vais parler du reverse proxy qu'on installe sur nos machines. Du load balancer interne, pas du très gros load balancer, mais je pense qu'il doit faire la même chose. Mais je sais pas si les gens vont passer le pas pour l'instant. Ce qui pose problème sur l'adoption, peut-être. Je sais pas ce que t'en penses, Nicolas. En tout cas, ça nous assure, pour le coup, que le code reste libre. Parce que si jamais un jour Nginx, le grand, ferme son code, on n'aura plus rien.
Moi, je pense que ça va leur mettre un petit coup de pression à la boîte originale pour garder une vision vraiment open source. Ou alors, ils vont se vexer, claquer la porte et il y aura un fork propriétaire, un fork libre et qui vont de plus en plus diverger dans le temps. Sur le côté austère de la doc, c'est marrant parce que moi j'aime bien. C'est la doc que tu trouves pas pratique à utiliser. Moi, je la trouve très pratique parce que on trouve très rapidement l'information. Alors effectivement, il faut passer par un moteur de recherche, mais je trouve toujours l'information dont j'ai besoin dans la doc de Nginx. Et après, moi, je l'utilise que pour la partie soit le servir des fichiers statiques, soit du reverse proxy très basique, parce qu'au bout d'un moment, bah, ça ne fait plus le boulot, et je passe sur de l'achat proxy ou du trafic, suivant mes besoins.
Petite note, moi, je m'en suis servi parce qu'il a la particularité de faire du reverse proxy en UDP. Et pas tous les reverse proxies savent faire de l'UDP. Et Nginx sait le faire plutôt bien. Donc ça peut servir. Donc voilà, ouais, c'est plutôt un bon produit. Moi je suis assez d'accord, la doc elle est plutôt... Ouais, elle est un peu... C'est pas la plus jolie doc du monde, mais elle est assez efficace. On trouve beaucoup de choses dedans.
Je précise, ça fait très doc années 2000 en fait. Quand je suis arrivé dessus, j'ai fait ouf. C'est page blanche. L'IA hypertexte, mais peut-être plus que années 2000, plutôt années 90. Ça me fait vraiment penser à ces docs que j'avais au début d'Internet. Hein. Je ne sais pas si ça vous renvoie la même image. Alors, du coup, ça doit être très efficace en termes d'impact énergétique. Mais pour le coup, le fait de ne pas avoir un moteur de recherche, alors, potentiellement, c'est d'ailleurs un site statique. C'est peut-être ça aussi.
On va dire que ça fait pas kikoulol, mais le fond est là, quoi.
Je dirais même que si certains projets pouvaient s'en inspirer, plutôt que d'essayer de faire des trucs qui clignotent dans tous les sens, qui soient... Effectivement, c'est joli, hein, mais la doc, on demande pas ce que ça soit joli, on demande à ce qu'il y ait toutes les options qui soient bien expliquées, les valeurs par défaut, les valeurs possibles, et puis bah, potentiellement des exemples. Et la doc de Nginx, c'est exactement ce qu'on a. Contrairement à d'autres produits où on est obligé d'aller chercher des exemples sur Stack Overflow, de demander à ChatGPT de nous générer un morceau de configuration qui de toute façon ne marchera pas parce qu'il se base sur des trucs Stack Overflow qui sont faux aussi. Nginx, je tombe très souvent sur la doc et je trouve toujours la bonne information. Alors, pour des trucs un petit peu tricky, des fois il faut aller fouiller un petit peu ailleurs, mais comme dans d'autres produits. Et voilà.
Et il y a toujours le code source pour aller voir.
Je dois avouer que comme ça doit être du C ou un langage équivalent, heureusement, j'ai jamais eu besoin d'y aller. Et pour abonder un petit peu sur ce que tu disais, c'est aussi un des rares produits que j'ai vu faire du proxy pour de l'IMAP, du POP3 et du SMTP. Donc je ne l'ai jamais utilisé, mais ça doit être très marrant quand on en a besoin.
Est-ce que vous voulez dire autre chose au sujet d'Nginx? En tout cas, je constate qu'il est hébergé sur un site de gestion de code Mercurial. Ce n'est même pas du Git, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui vont pouvoir participer. Mais c'était peut-être déjà le cas sur Nginx. Alors... si tu aimes ce podcast, tu veux qu'il clignote dans tous les sens et tu veux qu'il soit kikoulol de partout, tu peux nous aider pour qu'on continue à faire ça, à faire ce travail tous les mois et plus encore. Bon, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est grâce à un don. On a une plateforme de don qui s'appelle Libérapaix, c'est géré par une association française et en plus le code source est libre. Je tiens à chaque fois à le préciser, c'est vachement bien. Tu trouveras le lien en description, ça nous permet de nous payer justement l'hébergement du podcast, les outils qu'on utilise et ce genre de choses, parce que tu comprendras bien que les dons ne nous permettent pas de payer les gens qui font un travail bénévole, puisque vous êtes tous les trois bénévoles, et puis moi aussi, du coup, moi aussi je suis bénévole là-dessus. Donc, tu pourras nous aider à ne pas creuser encore plus le déficit de l'Hydra sur les compagnons du DevOps. En tout cas, à ton bon cœur.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On va revenir au basique et René, tu vas nous parler d'un article.
Oui, c'est ça. Ce mois-ci, j'ai trouvé que c'était un peu difficile de trouver des nouveautés, mais j'ai vu passer ça. Alors, c'est pas complètement nouveau parce que c'est un article qui a quelques mois. Ça a été écrit en avril là, 2023 et que j'ai vu arriver dans ma timeline X Twitter. Via Sylvain Balèze et donc la personne qui a écrit cet article c'est Katia Immer et elle retrace un petit peu qu'est-ce que le DevOps et je pense que c'est un article qui est bien pour les gens qui connaissent pas bien le DevOps ou pour faire une bonne intro parce que ça rebalaye de manière très factuelle qu'est le DevOps, et puis c'est ordonné chronologiquement, on voit un petit peu comment c'est arrivé, comment ça a progressé, et c'est un article je pense qui se lit à peu près en un quart d'heure, et en un quart d'heure ça permet d'avoir une bonne, je pense une bonne vision de ce que c'est, et un truc qui est pas mal aussi dans cet article là, c'est qu'elle parle des anti-patterns de l'équipe DevOps par exemple, qui est un bel anti-pattern. Donc voilà, c'est assez complet et je pense que pour les gens qui pour vraiment se familiariser et puis avoir une bonne appréhension de ce que c'est un très bon article. Et donc le lien sera dans les notes. Et il y a un autre lien qui a été publié sur le forum des compagnons par Hazel Kim, que je connaissais pas, qui s'appelle DevOps Topologies. Et pareil, c'est une espèce de blog, un site qui présente justement des organisations, différentes organisations de travail et un petit peu la compatibilité avec le DevOps ou comment s'organiser en interne pour faciliter le DevOps. C'est trouver ces ressources vraiment intéressantes parce que ça permet de revenir un petit peu à l'essence de ce que c'est et puis ça fait du bien de temps en temps. Voilà, Christophe, je te laisse ta main si tu veux en dire plus.
Merci de me laisser la priorité. Moi, j'ai lu justement l'article de Katia avant l'épisode pour être sûr de ce qu'on allait parler. Je l'aurais même, à mon avis, mis en news, mais tu l'as fait avant moi. Merci. Alors, je retiens un terme de l'article qui est le framework culturel, le DevOps. Pour elle, c'est un framework culturel. Et c'est clairement comme ça que je l'imagine. Je l'avais jamais mis en mots, mais je crois que je vais réutiliser ce terme parce que c'est vraiment le terme le plus adapté pour moi au DevOps. C'est un framework culturel et évidemment, comme tout framework, chacun l'applique un peu comme il veut. Bien sûr, il y a des anti-patterns, tu l'as dit, et Katia les nomme, elle en nomme trois, mais il y en a bien d'autres. Et justement, ces anti-patterns font que on va arriver sur la news que je vais partager. C'est marrant parce que je suis pas sûr d'avoir déjà vu l'article DevOps Topology, mais en tout cas, j'étais tombé sur un article comme ça qui parlait des topologies d'équipe, Agile ou DevOps, et donc je pense que je vais me replonger là-dedans pour peut-être en faire une vidéo un jour parce que ça peut être très intéressant. Et comme tu l'as dit, cet article-là, c'est une vraie introduction qui est plutôt très bonne à mon goût de ce qu'est le DevOps, et ça va donner à notre auditeur un point d'entrée qui est excellent. Je vais le mettre dans ma roadmap dans la partie comprendre le DevOps, je pense. Et je me suis dit, note à moi-même, il faut que j'interviewe Katia. Donc, Katia, si tu nous écoutes, sache que j'aimerais bien t'interviewer, mais je prendrai contact avec toi parce qu'on est en contact sur X ou LinkedIn, et je pense que je vais la faire venir pour l'interviewer dans un épisode d'En Aparté. Ça pourrait être que bénéfique pour tout le monde. Nida, qu'est-ce que tu penses de ce genre d'article ?
Malheureusement, j'ai pas lu l'article de Katia encore.
Mais de manière générale, les articles qui démystifient les concepts et qui sont des portes d'entrée sur ces concepts, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, je trouve ça bien, surtout quand c'est pas trop long. Parce qu'après, ça devient un peu imbitable. Le souci, c'est les effets de mode des concepts qui m'énervent le plus.
C'est-à-dire, tu peux en dire quelques mots ?
C'est DevOps, maintenant ça veut tout et rien dire, c'est un espèce de mot-clé. Agile, c'est pareil, c'est devenu. C'est un fourre-tout, c'est un. On sait même plus ce que ça veut dire en fait. C'est chaque entreprise a une définition propre. On était passé au début sur quelque chose qui était assez clair et évident pour tout le monde, et maintenant c'est un peu la fête du slip.
Merci pour ces bons mots. Je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu devenu. C'est difficile en fait. Et le fait, en tout cas, je discute beaucoup sur les réseaux sociaux. Et moi, ma politique, ma ligne éditoriale est très simple. Hein. DevOps, c'est une culture, c'est un mouvement. À chaque fois que je discute avec des gens, il y a des gens qui me disent oui, mais on s'en moque. Maintenant, c'est un métier. La culture, c'est bien, mais en fait, on veut des techs qui savent faire des outils DevOps. Et donc, comme tu le dis, on s'écarte un peu du concept original, et moi j'ai peur que ça rende les choses floues. Cet article-là, il est très bien parce que il remet l'église au centre du village, et on sait grâce à cet article ce qu'est le DevOps, en tout cas ce qu'est le DevOps pour Katia, et je partage son avis. Nicolas, tu hoches de la tête. Est-ce que tu es d'accord ?
Ouais, parce que je suis totalement d'accord, et je partage l'avis de Nida aussi. Ça m'énerve tous les trucs mis à la sauce DevOps. Il y a quelques temps, on m'a dit qu'un DevSecOps, c'était payé plus cher qu'un DevOps. Alors, je tiens à le dire, je suis aussi DevSecOps. Ça m'énerve. Il y a des FinOps, il y a des machins. Enfin, c'est bon, DevOps, c'est une manière de travailler. Donc, si vous voulez mettre tout ça dans le même panier, vous pouvez appeler ça DevOps Bullshit. Et vous gardez la culture et vous regardez comment ça travaille, comment ça fonctionne dans une entreprise qui veut faire en sorte que son infra tourne bien avec ses développeurs, et vous appelez ça DevOps. Mais DevOps, c'est faire collaborer tout le monde, partager les métriques, machin, etc. Et je trouve que son article est vraiment bien parce que à la fois il remet l'histoire, il explique qu'est-ce que c'est que la philosophie, et il montre aussi les anti-patterns. Et il remet vraiment en situation les piliers, et ainsi de suite. Alors après, moi, je l'ai survolé très rapidement. Donc, entre Christophe, qui l'a lu très attentivement, et Nida, qui l'a pas lu, bah, je suis entre les deux. Je l'ai survolé en 2 minutes. Mais j'ai retrouvé plein de trucs que je notais dans mes formations DevOps, dans mes introductions au monde du DevOps. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des articles comme ça qui ressortent de temps en temps pour remettre des bases à tout le monde. Parce que DevOps, on recrute un DevOps, bon, bah ok, voilà, allez hop, encore un truc qui va m'horripiler, et puis voilà. Vous le sentez que je suis énervé ?
Après, moi, j'ai mis cet article parce que sur le forum, il y a quelqu'un qui explique aussi qu'il a un manager qui a un peu pas forcément compris ce que c'était le DevOps, on va dire ça comme ça. Et enfin, voilà, ça fait écho en fait à cet article-là quand j'ai vu à l'article du forum, quand j'ai repensé à cette personne, je me suis dit, bah tiens, voilà, ça c'est un bon article à donner à quelqu'un pour qui c'est pas très clair ce que c'est, et qui peut être un manager, qui peut être. C'est pour ça que voilà, je voulais en parler lors de cette session.
Bah, t'es DevOps, donc tu vas m'automatiser cette partie-là.
Bah, je ne le suis plus maintenant.
Non, mais c'est un exemple de ce qu'on pouvait entendre, de trucs énervants.
Mais en fait, avec tout la fête du slip que disait Nida, ou le concept marketing autour du DevOps, on a eu tendance à oublier ce que c'était le DevOps, c'est quoi les bases du mouvement et pourquoi est-ce qu'on est là en fait. Et ça, c'est essentiel de comprendre ça, pourquoi est-ce qu'on en est là, pourquoi est-ce que le DevOps a émergé et pourquoi il n'est pas prêt de crever. Parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, que tu embauches des DevOps, que tu crées des équipes DevOps ou que tu aies du DevSecOps pour te faire ça, si tu apprends pas les bases des concepts du DevOps, de pourquoi on en est là et les bases de collaboration, parce que c'est ça, collaboration, amélioration continue pour moi, eh ben tu iras vers ma news en fait, qui est juste après. Donc je vais peut-être passer à ma news après, mais en tout cas, c'est hyper important de se rappeler pourquoi le DevOps est là. Même si tu penses que le DevOps c'est du bullshit et puis que n'importe qui peut s'appeler DevOps, ingénieur DevOps, mais à un moment donné il y a des faits et il y a des solutions qui ont été trouvées pour pallier à ces faits, et Katia les explique très bien, je trouve, dans son article. Je vous propose qu'on passe à la suite du coup, sauf si vous voulez qu'on discute encore DevOps, mais on aura justement l'occasion de parler de DevOps puisque mon article, ma news va parler de DevOps. Alors, bon, avant qu'on parle de mon article, je tiens à te rappeler qu'un podcast, c'est très dur à faire connaître. C'est comme le DevOps. Tant qu'on n'en parle pas, il n'existe pas. Donc, s'il te plaît, partage le podcast, envoie-le par mail, partage-le sur les réseaux sociaux, dis « Hey, j'ai écouté ce podcast, il m'a vachement plu. J'ai écouté cette news, elle m'a vachement plu. » Ou « J'ai écouté ce vieux podcast, il est très bien. » Vas-y. Partage-le. Alors, je le dis parce que le podcast, c'est très dur à faire découvrir, même s'il y a la chaîne YouTube qui aide à la découvrabilité, mais je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent uniquement en podcast, et il y a plein de gens qui ne vont pas sur YouTube. Donc, écoute-le. Tu peux en plus, comme c'est un podcast qui est en licence libre, il est en CC BY-SA, tu peux en prendre des bouts, et tu peux les mettre, si tu veux, dans tes cours, dans tes formations, dans tes vidéos, même si tu as envie. Il n'y a pas de problème, il faut juste citer la source, et la source c'est les compagnons du DevOps, la chaîne YouTube, ou Radio DevOps, le podcast, au choix. Mais de toute façon, à chaque podcast ou vidéo, il y a de quoi faire. Alors, le DevOps, c'est un échec, puisqu'on vient de le dire, hein, c'est la fête du slip, c'est le bullshit marketing, donc du coup, le DevOps, c'est un échec. Et donc, pourquoi est-ce que le DevOps, c'est un échec? C'est justement la promesse d'un post LinkedIn d'Hicham Ait Baslam. J'espère que je prononce bien ton nom, Hicham. Si c'est pas le cas, tu pourras me taper sur les doigts. Alors, Hicham, il est directeur de la transformation et de la stratégie IT à Capgemini. J'étais assez surpris d'ailleurs par son poste, vu d'où il vient. Mais justement, comme quoi, il y a plein de choses. Alors, ce poste-là, ça va être l'occasion pour moi justement de revenir, en plus de l'article précédent, sur ce qui est essentiel dans le DevOps et de lancer la discussion entre nous. Donc, ce que je vais faire, c'est que en intro, je vais me permettre de lire le poste d'Hicham, qui est assez court. Et moi, je t'encourage, si tu nous écoutes, à aller y répondre, à aller donner ton avis sur ce poste-là, parce que il est vraiment bien. Alors, L'adoption du modèle DevOps représente une promesse de transformation profonde pour les directions des systèmes d'information, les fameuses DSI, avec l'objectif d'accélérer le déploiement de solutions, d'améliorer la collaboration entre les équipes de développement et d'opération, et ultimement de créer de la valeur plus rapidement pour l'entreprise. Pourtant, malgré des investissements conséquents et des ambitions élevées, de nombreuses organisations se retrouvent face à un constat d'échec dans l'implémentation effective d'un modèle DevOps opérationnel. Cette chronique explore les raisons derrière ces échecs et met en lumière les défis sous-jacents aux transformations manquées. Premier motif d'échec, la lourdeur organisationnelle. C'est un frein majeur. Donc, une des principales difficultés rencontrées par les DSI dans la mise en œuvre du DevOps, c'est la lourdeur inhérente à certaines organisations. On parle là de très grosses entreprises. Ces structures hiérarchiques rigides, les processus décisionnels longs et complexes, des silos fonctionnels qui constituent des obstacles significatifs à l'agilité, à la collaboration que requiert l'approche DevOps. Cette rigidité organisationnelle, elle freine l'innovation, la rapidité d'adoption qui est essentielle à la réussite de la transformation. Donc si tu as déjà une lourdeur organisationnelle, là c'est moi qui le rajoute, il y a déjà un truc à travailler avant même de passer au DevOps. Ou alors c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Des partenaires qui jouent pas le jeu. Donc l'écosystème d'une entreprise, c'est composé de fournisseurs, de partenaires et de prestataires qui jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre du DevOps. Parfois, tu as des partenaires extérieurs qui ne s'alignent pas sur les principes et pratiques du DevOps ou qui résistent au changement. Ils peuvent ralentir, voire compromettre la transformation. Le manque de coopération et d'engagement de la part des partenaires peut créer des discontinuités dans les workflows, augmentant la friction et réduisant l'efficacité des initiatives du DevOps. Des investissements mal orientés. Investir dans la transformation DevOps est essentiel, mais parfois l'allocation des moyens est inefficace. Ces investissements peuvent mener à l'échec. Parfois, les DSI se concentrent exclusivement sur les outils et technologies au détriment des aspects humains, culturels, qui sont pourtant au cœur du DevOps. Sans un investissement adéquat à la formation, le développement des compétences et la gestion du changement, les outils seuls ne peuvent pas instaurer de changements profonds nécessaires à une culture DevOps authentique. Ça, c'est ce que je constate régulièrement. Si c'est trop orienté vers les outils, la culture ne va pas évoluer et on va dans le mur. Enfin, on a des petites améliorations, mais qui ne sont pas à la hauteur des promesses. Et évidemment, la sous-estimation de la culture et du changement comportemental. Le passage au DevOps est avant tout une transformation culturelle qui demande des changements de comportement significatifs de la part de tous les acteurs et de toutes les personnes qui sont impliquées. Cette dimension, elle est souvent sous-estimée par les DSI, qui peuvent privilégier, encore une fois, les aspects techniques au changement culturel. L'adoption de nouvelles manières de travailler, la communication ouverte, la collaboration transversale, les prises de responsabilités collectives ou le partage des responsabilités sont des aspects culturels qui sont essentiels et qui nécessitent du temps et de la persévérance pour s'implanter. Alors justement, on en parlait déjà dans Actu DevOps en février 2022 et sur un autre article qui disait que la Suisse était déçue par le DevOps et on tirait grosso modo les mêmes conclusions extrêmement proches de ce poste. Donc je te mets le lien de la vidéo de l'époque en commentaire où il y a un petit i qui va s'afficher sur YouTube. Moi, ce poste-là, il fait écho à plein de choses que je vois et que j'entends. Et donc, du coup, je vais me tourner vers vous, puisque c'est la continuité parfaite de l'article que nous a partagé René. C'est quoi votre avis sur ces constats d'échec en entreprise? Est-ce que vous avez vous-même vu des constats d'échec de ce type-là ou est-ce que vous en avez entendu parler dans votre entourage? Est-ce que Nida, tu veux bien commencer?
Bah, je vais continuer sur le côté fête du slip. le côté lourdeur organisationnelle, le titre est l'exemple parfait du château de cartes qui est mis en place dans les entreprises quand on parle de DevOps. C'est une organisation, plus personne sait qui fait quoi. C'est du silotage dans le fonctionnement. Et on arrive à des situations où on fait plus de mal que de bien. C'est contre-productif. On doit travailler en bonne intelligence. Je pense que DevOps, c'est limite. J'ai envie de bannir le mot et de dire travailler en bonne intelligence. Je pense que c'est un mot qui est de l'informatique à l'heure actuelle. On a un tel niveau d'abstraction technique qu'on est arrivé à un niveau d'abstraction organisationnel. Alors on a perdu le sens commun sur le côté pyramidal et silotage.
Ça dépend des entreprises, je pense. René, tu veux réagir ?
Moi, je peux dire un petit peu ce que je pense de l'article. Je suis assez d'accord, en fait. Mais par contre, je le mettrais... je pense que c'est très vrai dans les grandes... Enfin, je vais parler un peu de ce que je connais plutôt, mais des grandes entreprises, en fait. Donc, tous les problèmes organisationnels, c'est... disons-le peut-être un peu plus radicalement, c'est aussi des problèmes de politique. C'est-à-dire que bouger les organisations, ça fait des changements de chefs qui sont là, qui n'ont pas envie. Donc du coup, c'est ça qui est difficile à faire évoluer. Donc ça, oui, c'est des choses que j'ai vues. Heureusement, je pense qu'il y a quand même des entreprises qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à fonctionner en mode DevOps, mais... Pour les très gros, je pense que c'est effectivement assez difficile par ce côté-là. Après, les partenaires qui jouent pas le jeu, moi j'en ai eu une bonne illustration à un moment avec un client où il travaillait avec des fournisseurs qui n'étaient pas du tout dans le mode DevOps. Et il était, entre guillemets, malgré toute la bonne volonté de vouloir faire une transition, peut-être aller vers du DevOps, son fournisseur ne voulait absolument pas travailler comme ça. Il était engagé pendant encore plusieurs années avec lui et c'était pas dans le contrat. Donc il avait un échec plus ou moins de facto parce qu'il est lié, entre guillemets, pour un contrat. Donc ça, c'est des choses que j'ai vues et effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Les investissements ou la partie un petit peu aller sur les outils, ça rejoint un petit peu, c'est quand même la partie facile de mettre en place des outils. Et c'est aussi ce que ça aussi c'est du vécu entre guillemets où on pense que faire du DevOps c'est mettre en place des outils et au final ça améliore pas forcément les choses. C'est effectivement ça peut rendre les choses parfois plus complexes si les gens sont pas habitués à ces outils là, s'ils n'ont pas été formés. Donc je pense que le point clé, c'est vraiment le dernier. Il faut, je pense qu'il y a vraiment l'aspect culturel, mais aussi l'aspect, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire avec le DevOps, qu'est-ce qu'on cherche à améliorer, parce que pour emmener les gens, pour avancer vers ce mode-là, il faut donner l'objectif et il faut déjà l'avoir compris soi-même, ce qui est des fois pas toujours le cas. Et moi, pour moi, c'est vraiment c'est ça le point clé, quoi. Il faut arriver à forcément les gens. Si tu leur dis, on va te changer ton boulot, on va t'en donner encore plus, mais ils savent pas trop pourquoi. À la base, il y a assez peu de gens qui vont dire, ouais, super, ça passe pas bien, quoi. Voilà. Et du coup, créer un peu cette envie d'y aller. Je pense que c'est difficile à partir surtout sur des boîtes qui sont vraiment plus ou moins grosse. Enfin, du moins grosse, voilà. On va dire ça comme ça. Voilà, je vais donner un petit peu mon avis de... Donc oui, je suis assez en phase avec ce qui est dit. Après, il y a quand même des gens qui arrivent et qui ont des succès, heureusement. Sinon, ça serait dommage. Nico, si tu veux prendre la suite.
Ouais, alors il va falloir que je garde les idées claires et que je réussisse à garder mon calme parce que c'est bien le sujet qui m'énerve bien. Déjà, on va reparler de c'est quoi DevOps. C'était bien une philosophie. Et dans la philosophie, il y a quoi ? Il y a l'acronyme CAMS, culture, automatisation, mesure et partage. Pourquoi ? C'est que c'est pour avoir une culture de l'entreprise, une culture du produit, une culture de la prod et ainsi de suite. L'automatisation, on va pas revenir là, c'est pour aller plus vite et que tout marche bien. La mesure, c'est quoi ? C'est qu'on va mettre des métriques sur qu'est-ce qui est important pour l'entreprise. Donc ça va rentrer dans les KPI des équipes. Et c'est quelque chose qui est partagé. La responsabilité de ces KPI sont partagées au niveau de l'entreprise. Donc, que ça soit les développeurs, les opérationnels, mais on pourrait aussi mettre ça dans les mains du PO qui va être responsable de faire en sorte qu'il y ait la priorité sur un maintien de bonne performance et pas de absolument toujours pousser des nouvelles fonctionnalités, de bien corriger les bugs pour que les utilisateurs soient contents et ainsi de suite. Et avec un truc qui pour moi est aussi important que tout le reste, c'est le partage. Et le partage de tout ce qu'on a vu au-dessus, le partage de la responsabilité, le partage de la culture, le partage des métriques, ainsi de suite. Et le partage dans l'entreprise, c'est on partage aussi ce qu'on apprend sur les incidents, sur des bugs, sur des machins, et on partage tout au niveau de l'entreprise. Et finalement, pourquoi ça marche pas dans certaines boîtes?
Je veux juste préciser, ouais, parce que t'as oublié le L, qui est l'acronyme de Lean,
oui,
qui est des petits pas. Ça veut dire qu'on avance petit à petit aussi. C'est important. C'est un des piliers importants que je tenais à rappeler.
Alors après, il y a plein d'autres piliers, mais je prenais le CAMS de base. Non, je parlais du CAMS, qui est l'acronyme qu'on a entendu au tout début de DevOps. Mais effectivement, le Lean, c'est super important parce que c'est ce qui va vous permettre à la fois d'être feignant et à la fois de réduire vos coûts, puisque vous allez faire que ce qui est strictement nécessaire. Alors ça, c'est pareil, c'est si vous connaissez pas le Lean Management, intéressez-vous à ce sujet-là. C'est un truc super intéressant. Alors, ça permet de dégraisser certaines boîtes qui sont mal financièrement. Mais si vous adaptez ça à votre vie de tous les jours, vous allez énormément progresser sur plein de sujets et vous allez arrêter de vous éparpiller sur des sujets qui ne nécessitent pas. Mais bon, alors justement, s'éparpiller sur des sujets qui ne nécessitent pas, c'est moi ce que je constate aussi dans beaucoup de grosses boîtes, et je ne vais pas donner de nom pour fâcher personne, et je pense que c'est comme ça dans plein de grosses boîtes, a priori surtout françaises, parce que c'est un peu culturel chez nous, c'est on a plein de chefs de projet, pour aller déployer 4 serveurs, on va avoir un ops, un dev et 5 chefs de projet. Et on va avoir des réunions en permanence finalement les deux qui rament, ils sont tout le temps en réunion, et on leur demande pourquoi ils avancent pas, bah parce qu'ils sont en réunion, et finalement après on s'étonne que DevOps ça marche pas. Alors déjà arrêtez de recruter des DevOps, recrutez des gens qui sont dans le métier, après vous les appelez DevOps si vous voulez, c'est plus facile à recruter, ok, pas de problème. Par contre, mettez en place vraiment une organisation DevOps. Arrêtez de tout siloter dans la boîte. Arrêtez de mettre des barrières avec des outils de ticketing à la con qui font chier tout le monde et perdre du temps. Je vous avais dit que j'étais énervé. Bref, regardez vraiment, revenez aux fondamentaux de DevOps. Et les deux articles qu'on a eus sont vraiment intéressants et importants pour prendre conscience de ce problème-là et essayer de regarder si vous pouvez pas appliquer ça chez vous. Moi, les dernières boîtes où j'ai bossé, c'est des choses qu'on a mis en place. Et finalement, c'est assez naturel quand on travaille comme ça au quotidien. Parce que finalement, quand l'application elle est par terre, c'est celui qui est le plus pénalisé, c'est le client. Et la boîte, elle est là pour fournir un service au client. Et ce qu'on veut, c'est rétablir le service le plus rapidement possible et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et ça, c'est du travail d'équipe. Enfin bon, voilà.
On a bien compris que tu en avais gros sur la patate. Du coup, je vais prendre la suite.
Voilà. D'ailleurs, et pour finir là-dessus, ça me fait penser, quand on parlait tout à l'heure, là, le dernier article, ça m'a fait penser un petit peu au télétravail, où tout le monde a dit pendant des années, non mais le télétravail, c'est pas possible chez nous, machin, etc. Et puis quand on a été obligé de télétravailler parce qu'on a été confiné, on s'est rendu compte que ça marchait pas si mal que ça. Et toutes les boîtes où ça a pas marché, et tous ceux qui ont dit que non mais le télétravail, ça marche pas chez nous, c'est parce qu'en fait, ils étaient mal organisés déjà à la base. Et le fait d'être en télétravail, ça a mis le doigt sur tous les points qui allaient pas dans la boîte. Et puis voilà. En fait, là, c'est pareil. C'est on fait du DevOps parce que on a vu dans 01net mag machin que c'était à la mode. Gartner a dit que fallait faire du DevOps, donc on va faire du DevOps. Mais on cherche pas ce que c'est réellement que le DevOps dans la substantifique moelle et comment l'implémenter. Et du coup, on se met à faire n'importe quoi, n'importe comment. Puis après, on dit que c'est pourri et que ça résout pas les problèmes. Pourtant, j'ai mis un Jenkins, donc on est DevOps, mais ça marche pas. Voilà. Bon, je te laisse la parole. Je vais me calmer.
C'est peut-être Jenkins le problème dans ce cas-là, mais je vais pas pas troller. Par contre, ce que je vais pouvoir dire, c'est je vais rebondir sur plein de choses. Je vais pas réagir sur le DevOps et la fête du slip, même si j'en pense pas moins. C'est devenu tellement un mot marketing qu'on a oublié ce que ça voulait dire. Et moi, je l'ai jamais oublié. Alors, c'est pour ça que je me sens un peu en décalage par rapport à plein de gens. Mais pour moi, si le DevOps est un échec, je reste persuadé que c'est l'implémentation le problème et pas le DevOps. C'est l'implémentation qui, en effet, dans certaines boîtes, le problème et pas le DevOps en lui-même. Puisqu'en plus, le DevOps, il y a plein de manières de le faire, mais il y a quand même des concepts à prendre en compte. Nidal disait, c'est je ne sais plus quel terme t'as utilisé, mais le bon sens. C'est la coopération, c'est l'amélioration continue, c'est plein de trucs qui font que c'est là pour marcher. Et il y a plein de personnes aussi qui dévoilent DevOps en disant, ouais, ok, mais le DevOps, je la fais court, hein, mais c'est la branlette intellectuelle culturelle. Pas tant que ça, en fait. C'est pas technique versus culture, c'est culture et technologie, puisque la culture est là pour fluidifier la coopération entre les équipes et puis te mettre dans un état d'esprit qui fait que ça va bien marcher avec tes collègues. Et la technologie est là parce que en changeant certaines technologies vieillissantes par des technologies un peu plus nouvelles, qui sont celles qu'on utilise dans le DevOps de manière importante, les deux ensemble font que ça va marcher. Bien sûr, si tu fais que l'un et pas l'autre, tu auras des résultats moindres. C'est pour ça que les entreprises qui ne font que la partie tech, elles ont des résultats, mais pas à hauteur de ce qu'il vaut. Parce que c'est pas parce que tu mets de l'intégration continue, tu mets des pipelines GitLab CI ou GitHub Action ou je ne sais quoi. Mais si tu continues à avoir des gestions de tickets ITSM, peut-être que ça a pas bien marché. Bref. J'aimais bien aussi, je sais pas si c'est René, c'est toi qui as dit ça, mais avoir une vision. Moi, ce que je fais quand j'initie mes mentorats, parce que je fais du mentorat DevOps d'équipe et de personnes, ce que je fais avec les personnes ou les équipes, c'est définir un objectif. Il est un peu flou, hein. Moi, j'ai tendance à dire c'est le phare dans la nuit, c'est là vers quoi on va aller, puisque nous, on est une embarcation qui va naviguer et on va vers le phare, même si on ne sait pas si on va arriver exactement au phare ou à la plage, à la crique d'à côté. Donc, si vous vous lancez dans une transformation DevOps, si vous êtes une grande entreprise, il faut avoir une vision et surtout, il faut que la vision elle soit partagée. Et donc, faites-vous accompagner. Ça, c'est un autre des enseignements aussi, mais on en a parlé là. C'est il y a de fortes chances, si vous êtes une grosse boîte qui n'avait jamais fait de DevOps, que vous n'y arrivez pas seul. Vous aurez beau lire tous les articles, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas seul. Donc, faites-vous accompagner par des consultants, des consultantes, des mentors, je ne sais quoi. Nous, on peut vous aider, mais il y a plein de gens qui peuvent vous aider à former vos équipes, à les accompagner dans ce chemin, parce que c'est un chemin qui est souvent long. Et en effet, les petites boîtes, elles passent plus facilement en DevOps parce que c'est plus facile, elles sont plus agiles déjà de base. Et elles ont tendance à avoir la coopération et la collaboration dans leur ADN, parce que quand on est une boîte de 5 ou une boîte de 10, c'est plus facile de coopérer parce qu'on n'a pas le choix en fait. Quand on est une boîte de 500, c'est déjà plus complexe. Donc ça s'apprend. La culture de la coopération, ça s'apprend. Je suis assez bien placé pour le savoir, je suis dans une coopérative et c'est pas inné. On apprend, et nous, notre coopérative, on apprend à coopérer ensemble, même si on n'a pas tous les mêmes métiers. On a quand même des choses qu'on fait ensemble, donc ça se travaille. C'est pas juste va lire 3 articles, va écouter 3 podcasts de Christophe, et puis ça y est, tu seras DevOps. Non, ça marche pas. Donc voilà, faites-vous accompagner, c'est mon mot de la fin. Trouvez des gens en qui vous avez confiance pour vous aider dans ce chemin, parce que c'est vraiment un chemin long, une transformation DevOps, d'autant plus si vous êtes une grosse entreprise, ça peut prendre plusieurs années. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Bah oui, vas-y, Nicolas.
Ouais, voilà, je croyais que pour devenir DevOps, il suffisait de changer l'intitulé de son CV. C'était un troll, bien sûr. Sinon, je pense que le titre de l'article était inspiré de la présentation de Nicolas Ruff, pourquoi la sécurité est un échec. Donc, ça a pas mal tourné. Et je pense que ça vient de là. Donc, Nicolas Ruff, c'est un des podcasteurs de nos confrères de Nos Limites Sécu, que je vous incite à aller écouter parce que c'est aussi très intéressant.
Cool. Alors, c'était pas un article, c'est un post LinkedIn. Mais allez-y. En effet, c'est toujours bon d'aller écouter ça. Si tu as le lien, que tu peux nous le fournir, on pourra le mettre en plus dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'on ne passerait pas à la suite ? Ou est-ce que vous avez encore des choses à dire sur les échecs du DevOps ? Je pense qu'on a assez parlé des échecs du DevOps, non ? Allez. Bon, avant de passer à la section des outils, mon petit appel à l'action, là, si tu veux, bah justement, te forger un état d'esprit DevOps parce que c'est pas inné, tu peux acheter ma formation, j'en ai fait une spécifique là-dessus, DevOps Mindset. Donc cette formation, elle te permettra justement de rentrer dans le mouvement et d'acquérir les bases de cette culture. Tu verras, on parcourra ensemble tout ce qui fait de pourquoi on a eu besoin du DevOps et tout ce que fonde le DevOps, selon moi évidemment, aujourd'hui. Même si tu n'y connais rien, tu peux prendre la formation, tu apprendras ça. Tu verras, il y a le lien en description. Et si tu veux aller plus loin, j'en parlais tout à l'heure, si tu es une entreprise et que tu veux te faire accompagner, soit tu veux accompagner des personnes ou si tu veux accompagner des équipes, j'ai un mentorat DevOps justement où j'accompagne les équipes à mettre en place le DevOps dans leur projet. Et c'est grâce à ça qu'ils y arrivent parfois. Tu vas voir sur le site des compagnons du DevOps, tu as tout. C'est compagnons-devops.fr, hein, je le rappelle. T'as accès à toutes les formations, les mentorats, etc. Et puis évidemment le super forum. Alors, les outils. C'est la section que tout le monde attend. Et ça bouge dans mon pad. Et Victor, qu'est-ce que je raconte ? Et Nicolas va nous parler d'un outil.
De Vector qui sera votre meilleur ami si vous avez des soucis d'observabilité. Donc que ça soit des métriques ou des logs, c'est un outil qui va vous permettre d'aller chercher ces deux types d'informations, quelle que soit la source, si c'est aller lire des fichiers, il s'est allé collecter dans des bases de données, des choses comme ça. Il va pouvoir vous transformer ces informations-là et il va pouvoir vous pousser ça dans vos outils favoris. Moi, je l'ai utilisé pour pousser dans du Loki, pour pousser des métriques, parce que j'avais le problème de récupérer les tags des images Docker qui tournaient. Et c'était un petit peu galère avec les autres outils et en fait Vector va vous permettre de collecter plein d'informations sur la VM sur laquelle ça tourne et d'envoyer ça où vous voulez et aussi de transformer les trucs au passage. Par exemple, vous pouvez rajouter les informations de géotagging à partir de l'adresse IP si vous avez installé la base de données GeoDB et ainsi de suite. Et en fait, c'est super comme outil. Je crois que je vais l'utiliser de plus en plus. Et toi, René, t'en penses quoi ?
Pour être honnête, je pensais qu'on en avait déjà parlé, parce que c'est écrit en Rust.
C'est pour ça que t'aimes bien.
Donc, je connaissais à cause de ça. Et ouais, c'est un outil qui a démarré assez fort, qui a été racheté par Datadog, si je dis pas de bêtises. Oui. Et ouais, ça... C'était sur le papier en tout cas, j'ai jamais utilisé, mais ça avait l'air très pratique, très séduisant, et j'ai l'impression que tu confirmes.
Je prends la suite alors. Moi, je connaissais pas Vector. Enfin, je connaissais Vector, mais je l'avais jamais utilisé. Je connaissais Vector pour deux raisons. La première, c'est que son site est fait en Docusaurus, et quand on a fait le site de Froggit, on s'est inspiré de plein de sites. Et Vector était parmi ma top liste parce que je trouve leur site formidable. Et allez voir ce site, il est vachement bien, je trouve très beau. Mais je connaissais pas, j'avais jamais utilisé Vector. Je sais pas si je vais l'utiliser parce que ça sort un peu de mon cas d'usage, mais pourquoi pas. Et Nida, toi tu utilises ce genre d'outil ?
Non, pas du tout. Après, c'est pas trop dans mon. comme je suis plus sur la partie infra, j'en suis un peu loin.
Ok.
Justement, tu peux collecter toutes tes métriques avec.
Tes métriques infra, oui. Eh bien, passons à l'outil suivant, alors. René, c'est à toi.
C'est à moi, pardon. Alors c'est pas vraiment un outil, c'est une plateforme en fait que j'ai découverte. Et je suis quelqu'un qui s'appelle John Jenkset, qui est quelqu'un de qui fait pas mal de vidéos d'apprentissage autour de Rust, très pointu. Pour le coup, il est vraiment très fort. Donc on mettra les liens des vidéos, etc. Il a écrit aussi un bouquin qui s'appelle Rust for Rust Async, qui est pour un petit peu les utilisateurs avancés sur Rust. Voilà, il y a un livre qui vient compléter le Rust Book, qui est plus pour apprendre et débuter. Et donc il a fait des streams où il montre en fait la réalisation de, on va dire, un concept, un challenge un peu avancé. Donc en l'occurrence, en ce moment, il est en train de recréer une partie de Git. Et du coup, c'est proposé par cette plateforme qui s'appelle CodeCrafters. Et j'ai trouvé que c'était pas mal parce que des fois, il y a des plateformes qui permettent de faire du lead code, donc des tout petits challenges un petit peu simples. Il y a des plateformes qui permettent de, comme Coding Game par exemple, qui permettent de travailler l'IA d'un jeu, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça manquait un peu des fois aussi un peu en manque d'inspiration. Et là, l'idée, c'est de recréer un peu une partie des logiciels un peu complexes qui existent. Donc là, notamment Git. Et donc là, il fait ça. Et puis, voilà, je trouvais que cette plateforme a l'air sympa. Donc, je voulais la partager. Et le seul petit défaut, c'est que donc c'est un SaaS. Et c'est peut-être... alors, il y a moyen de découvrir. Je suis en train d'aller voir un petit peu tout ça. Donc, je suis pas très au courant de comment ça marche entièrement, mais il y a moyen de faire un challenge pour découvrir, et après bien sûr il faut passer à la caisse, et j'ai trouvé que c'était peut-être un peu cher, ou du moins peut-être pour découvrir, enfin voilà, je vais mettre des réserves pour l'instant, voilà, je sais pas trop, il faut que j'expérimente un peu plus la plateforme, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne idée, et voilà, je voulais partager cette plateforme. Est-ce que vous connaissiez?
Ah, moi, je suis assez admiratif parce que le live que tu nous as partagé, il dure 4h30. Et c'est assez long. Et pour avoir fait des live coding, je sais que c'est dur de rester concentré pendant aussi longtemps. Et puis surtout, où est-ce qu'ils trouvent les moyens de faire des lives de 4h30? Ou alors, je ne sais pas comment il fait, peut-être qu'il fait ça en dehors de son taf. Hein. Tu disais que c'est assez cher, alors moi, j'ai un avis un peu contrarié là-dessus. C'est $40 par mois. Pour être membre de cette plateforme CodeCrafter. Je compare ça à des formations ou autres, et de toute façon c'est une dépense professionnelle. Pour moi, ça devrait être l'entreprise qui paye ce genre de truc à ses employés. C'est pas très cher, hein, $40 par mois. Faut être honnête. C'est pas non plus. Après, si tu te le payes toi sur tes données personnelles, je dis pas, hein, mais dans une optique professionnelle, moi je trouverais pas ça cher. Si j'avais à payer ça à mes salariés, typiquement. Ouais.
Ouais, non, juste pour rebondir, oui, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est ce qui t'incite à faire. J'ai un peu regardé sur la plateforme, c'est ce qui t'incite à faire, c'est-à-dire de demander à ton management, etc., d'avoir les finances pour apprendre. C'est effectivement, en termes de formation, je pense que oui, c'est pas très cher. Après, oui, je parlais plus en tant que. Personnel pour voir un peu comment ça marche, etc. Voilà, je pense qu'il y a un exercice qui est gratuit qu'on peut faire, mais voilà, pour bien appréhender la plateforme et commencer, je trouvais que c'est voilà, fallait investir un petit peu.
Exactement, en fait le plan gratuit il contient deux étapes par projet, c'est ce qu'ils disent. Moi je t'encourage, si tu as besoin de ce genre de choses, toi en tant qu'auditeur ou auditrice, de toujours aller voir ton manager et lui dire il y a ça, c'est vachement bien, ça coûte pas si cher que ça, j'aimerais bien me former grâce à ça. Franchement, par rapport à des formations à 500 euros la journée ou 600 euros la journée, des trucs comme ça, ou même des formations en e-learning que plein de personnes sur le net proposent, dont d'autres créateurs de contenu, c'est toujours moins cher que des formations en présentiel. Et ça peut être suivi sur le long cours en plus, c'est ça l'avantage. Mais là, on sort un peu du cadre. Mais en tout cas, moi, je te conseille de toujours négocier avec tes managers, que ce soit des bouquins, des formations, pour rester à jour. Nicolas ?
Ouais, ça fait moins de 500 dollars par an. Donc, effectivement, c'est ramené comme ça, c'est pas très cher. 40 dollars, si je devais le payer moi, ça piquerait un peu. Mais bon, et par contre, il y a un truc marrant, c'est que si c'est pour l'entreprise, c'est 39 dollars. Donc, c'est un dollar de moins par personne. Et après, pour pratiquer, moi, j'utilise la plateforme TryAcme. Donc, j'imagine que c'est un petit peu le même principe. En fait, ça vous fait progresser à une vitesse folle. Et c'est un retour sur investissement assez intéressant. Donc moi, je ne mettrais pas 40 dollars dans cette plateforme-là parce que je mets déjà pas mal de sous dans d'autres plateformes. Mais si vous débutez dans un langage, dans un développement et que vous voulez progresser très rapidement, bah, inscrivez-vous sur des plateformes comme ça. En général, vous en serez plutôt content.
Oui, c'est orienté dev. Hein. C'est vraiment une plateforme orientée dev. Et juste un petit aparté, 4 heures pour John, c'est pas grand-chose parce que d'habitude, avant, ses streams, il faisait 8 heures.
Ce que je veux dire, c'est que il finance comment son temps de travail ? Parce que pour moi, c'est un vrai travail. Alors peut-être qu'il a une très grosse chaîne et qu'il n'a pas de problème.
Non, bah, je pense pas, parce que ça reste un peu de la niche, mais il fait ça plus ou moins en dehors. Là, je crois qu'il a monté un Patreon pour avoir du support. Mmh. Après, c'est quelqu'un qui est vraiment connu dans la communauté Rust, donc assez célèbre. Donc, il était au MIT avant, etc. Donc, je pense qu'il n'a pas trop de problèmes de finances. Mais oui, je pense que ça lui prend du temps. Et bah, il fait ça au détriment, je pense, d'autres choses.
Ouais, c'est probable. Et toi, Nida, qu'est-ce que tu penses de ce genre de plateforme, justement, d'apprentissage ?
Ben, je trouve ça très bien. Parce que pour se former, surtout si en plus ça peut être payé par l'employeur, c'est encore mieux. Après, moi, j'utilise à titre personnel des plateformes équivalentes et c'est vrai que c'est très agréable. Et je voulais juste revenir sur la durée des lives. Ça me fait penser aux lives d'Akanoa en Rust qui peuvent durer plusieurs heures aussi.
Ouais. Ah, Yannick, il fait aussi des... Parfois, il se lâche, il fait des super longs lives.
La nuit.
Moi, j'ai plus son âge, hein. Je pourrais pas tenir aussi longtemps. Et puis surtout, j'ai d'autres passions que l'informatique, notamment le cinéma et les séries télé. Si je passe 4 heures à faire un stream, je pourrais plus regarder de films. Ce sera un déchirement pour moi. Nicolas, tu vas nous parler d'un autre outil.
Oui. Et quand je parlais d'envoyer des trucs tout à l'heure, je parlais des secrets, mais j'ai aussi récemment eu un problème. C'était envoyer des gros documents. Dans ma famille, on me demande régulièrement comment est-ce que je peux envoyer des trucs. Et ça m'embête toujours de donner le don d'une plateforme où, quand c'est gratuit, on ne sait pas ce qu'ils font de nos données. Donc ça me chiffonne toujours un tout petit peu. Et en fait, j'ai découvert il y a quelques temps, et je l'avais installé, là je l'ai remis à jour récemment, c'est un outil qui a été développé par Mozilla à l'origine, qui s'appelle Send, tout simplement. Et en fait, bah, c'est l'équivalent des WeTransfer et je sais plus quoi, mais que vous pouvez auto-héberger. Donc en termes de sécurité, c'est peut-être moins bien si vous configurez mal votre serveur. Mais en tout cas, ça sera pas hébergé sur le serveur de quelqu'un d'autre. Donc ça fait partie des petits outils que je vous conseille à regarder et à installer. Surtout si vous avez une entreprise et que vous envoyez régulièrement des documents, si vous savez gérer un serveur, installez-vous une instance comme ça pour l'utiliser, pour envoyer vos fichiers d'entreprise.
Merci. Je sais pas s'il y a autre chose à dire là-dessus. Moi, typiquement, j'utilise notre Nextcloud pour faire ça. Je partage les fichiers directement. Ah, mais c'est la même idée. C'est la même idée, en effet.
Alors là, c'est le gros intérêt, c'est que c'est, tu partages ton fichier et il va pouvoir se supprimer automatiquement, alors que dans ton Nextcloud, il faut faire un partage.
C'est
machin. Enfin, c'est... Moi, j'utilisais beaucoup Dropbox pour faire ça, mais bon, c'est pour plein de raisons, je l'utilise plus forcément. Et là, c'est vraiment très simple d'utilisation. Vous choisissez combien de téléchargements peuvent être faits et combien de temps le téléchargement va rester, et ça va se supprimer automatiquement. Et petit truc intéressant, c'est que vous pouvez aussi mettre un mot de passe, et c'est chiffré avec ce mot de passe sur le serveur, et c'est déchiffré à la volée quand vous le téléchargez. Enfin, bon, c'est super marrant.
Vous connaissiez René Unida, ce genre de... Enfin, cet outil en particulier?
Pas celui-là. Enfin, j'ai entendu parler de ça parce que ça nous dit. Après, moi, j'utilise un plus ou moins équivalent qui s'appelle Luffy, qui est pas mal aussi. C'était un moment utilisé par Framasoft.
Bah après, pour l'envoi de fichiers, moi, je vais utiliser les mastodontes, on va dire ça comme ça. Comme SwissTransfer et compagnie. Après, ça s'arrête là. C'est parce que c'est pas trop ma façon. Sinon, c'est utiliser un lien Dropbox ou...
On en revient à ça. C'est vrai, par contre, pour les très très gros fichiers, moi, je passe pas par Dropbox, je passe par des alternatives comme ça. Mais du coup, ça fera une alternative de plus. En plus, il y a une version hébergée par je sais pas qui, d'ailleurs, faudrait que j'aille voir, qui est dispo sur le lien GitHub, justement. Nicolas,
c'est ce qui m'inquiète toujours.
Ouais. Du coup, j'ai remonté ton autre outil parce que c'était très proche. Je pense que pour rester dans la thématique.
Eh ben, exactement. Donc, tout à l'heure, je partageais le partage de secrets comme des mots de passe, des passe-phrases ou même des fichiers de configuration. Donc, y a un outil qui s'appelle PrivateBean. Donc, c'est un clone de PassBean en open source. Et là, c'est pareil, je l'ai installé sur un de mes serveurs. Ça me permet de mettre des mots de passe. Et vous pouvez mettre un mot de passe à l'upload. Et vous pouvez lui dire, une fois que vous l'avez lu, une fois, il est supprimé. Donc en termes de sécurité, c'est un bon compromis parce que vous envoyez le message par mail à la personne. Vous lui communiquez le mot de passe de ce lien-là par un autre moyen ou pas, à la rigueur, peu importe. Et en fait, si la personne vous dit « mais je comprends pas, j'ai pas accès au mot de passe », ça veut dire qu'il y a déjà une personne qui l'a lu. Donc, vous pouvez leur générer un nouveau et le renvoyer une deuxième fois. Bon, sauf si les utilisateurs sont pas doués, ce qui n'est pas totalement exclu. Mais globalement, ça vous permettra de maîtriser plus facilement si le truc a déjà été lu une fois et de pouvoir supprimer le truc automatiquement. Donc ça fait partie des petits outils où, comme je disais par rapport à au précédent, à Send, qui sont intéressants à déployer dans votre entreprise pour pouvoir faire du partage de secrets de manière un petit peu plus sécurisée que par mail. Et pour préciser, tout à l'heure, tu as dit que les mails transitaient en clair. Alors, pas exactement. Normalement, il y a quand même du TLS entre serveurs maintenant. Mais c'est une carte postale. Votre facteur peut lire le contenu de la carte postale.
C'est ça que j'avais en tête, en effet.
Voilà.
Ben, nous...
Donc, Nida, c'est pareil. Tu utilises les mastodons pour partager tes secrets aussi?
Le mastodonte... Non.
Nous, on a une instance PrivateBean chez nous qui a été mise en place par Thomas, mon associé, parce que justement, il en avait besoin. Donc, on l'utilise. Alors, moi, pas encore, mais lui, oui. Et on peut partager aussi, je sais que ça se fait, des logs très longues. C'est assez intéressant, justement, pour partager sur les réseaux ou sur les forums, ou sur les chats. Typiquement, sur notre chat interne, on peut pas partager de très longs logs. Donc, on crée un fichier PrivateBean et puis on l'envoie. C'est assez pratique. Ça s'héberge très bien, oui. En plus.
Parce qu'on n'est pas obligé de le chiffrer, effectivement.
Non, ça, pour le coup, on n'est pas obligé de le chiffrer. Sauf si tu as des secrets dedans. Dans ce cas-là, tu le chiffres et tu l'envoies à la personne. Mais bon. René, tu utilises ça?
Oui. Ouais. J'utilisais pas mal à un moment. Moi, on parlait. Enfin, voilà, c'est pour ça. Luffy, c'était pour ça, pour s'échanger avec des utilisateurs des différents secrets, etc. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus. Enfin, je dirais, c'est même presque plus compliqué de se passer de ces outils-là que de les mettre en place presque, parce que tout existe quoi. Il y a même pour faire, voilà, on en a déjà parlé, des passbolts, des Bitwarden, enfin Vaultwarden, etc. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, qui sont sympas à utiliser, et il faut pas s'en priver parce que bah, c'est un truc un peu critique et les solutions sont là quoi.
Nickel. Bon, bah, on va passer au dernier outil, c'est le mien pour le coup. Alors on revient au basique parce qu'il y a plein de gens qui doivent le connaître, mais pour le coup, je l'avais encore jamais utilisé. Je l'ai utilisé pour la première fois il y a 1 à 2 mois. C'est AirClone. Eh oui, AirClone, qui est un programme en ligne de commande qui va te permettre de gérer des fichiers, d'envoyer des fichiers sur n'importe quel type de stockage cloud. Alors, je dis n'importe quel type parce qu'il y a plus de 70 back-ends. Nous, on s'en est servi justement pour synchroniser des données disques sur des stockages objets, et on va s'en servir pour synchroniser des stockages objets entre eux. Jusqu'à présent, moi, j'utilisais la CLI Amazon Web Services, mais bon, quand un de mes collègues m'a dit bon, c'est super lourd, mais AirClone, c'est vachement bien. J'ai été voir, j'ai utilisé, et en effet, c'est vachement bien. C'est beaucoup plus simple que la CLI Amazon Web Services. Ça se configure de manière beaucoup plus facile. Et en plus, il y a le petit truc en plus, c'est il y a une petite interface graphique. Si tu le lances en ligne de commande, tu y as accès en localhost et tu peux explorer justement tes stockages objets au travers une application web qui est hébergée par ta CLI en fait. Et c'est super bien. Et puis quand tu fais des synchronisations, t'as la barre de progression, etc. Ça fait des checks. Enfin, ça fait vraiment plein de trucs. AirClone, c'est formidable. Je suis tombé amoureux. Et pourtant, je l'utilisais pas avant. Donc, je voulais en parler. C'est essentiel de rappeler qu'il y a des outils comme ça qui existent. Ah, je vous vois rire, mais bon, moi, ça a été une illumination pour moi.
Moi, il tourne en permanence, toutes les nuits pour synchroniser certains object storage et en permanence pour d'autres, parce que ça, par contre, c'est l'inconvénient. J'ai des gros object storage avec beaucoup, beaucoup de fichiers, et ça, c'est à parcourir tout, c'est vraiment pénible. Mais sinon, ouais, il est super bien. Tu peux lui dire, tu me recopies ça là-dessus, tu me synchronises ça avec ça. Il est même capable de faire du bidirectionnel. Enfin, c'est vraiment top comme outil. Je vous incite à le regarder. Et il est plutôt facile à prendre en main. C'est le AirSync de l'object storage. Et d'ailleurs, je m'en sers pour faire du backup d'object storage sur du disque. Parce qu'il n'y a pas que des back-end d'object storage.
Juste excellent outil, je plus sois. Ouais.
Donc tu l'utilises, évidemment.
J'ai utilisé.
Et Nida, ouais. Toi, tu l'utilisais, j'imagine.
Aussi, oui. Ouais, en ce moment, pas du tout, mais ça reste un banger.
Ouais, je suis vraiment la dernière roue du carrosse, faut me dire les trucs à moi. Ça prend du temps. Hein. Ouais, c'est ça quand on fait un peu moins de technique.
Alors. J'ai un super podcast à conseiller. Il y a un outil de l'épisode à la fin. C'est vraiment super.
Merci. J'irai écouter. Tu m'enverras le lien en message privé ou sur les réseaux.
Voilà.
On va s'arrêter là parce qu'en plus, ça fait finalement très longtemps. Je pensais qu'il serait plus court cet épisode, mais ça fait 1h50. Oh là là. Donc, tu l'auras compris, le DevOps, c'est un mouvement. Et quoi de mieux qu'une communauté pour parler d'un mouvement? Eh ben, la communauté des compagnons du DevOps, c'est un endroit où tu peux discuter. Tu peux t'inscrire, tu pourras venir discuter avec nous sur le forum, parce qu'on y est tous les trois. Il y en a plein d'autres, il y a tous les autres podcasteurs aussi. Et puis, il y a plein de personnes, puisqu'on est déjà plus de 1500 dessus. Tous les jours, il y a des nouveaux messages, il y a des discussions qui se lancent. Donc, pour t'inscrire, c'est hyper simple. Tu vas sur le site, tu mets ton email. En plus, tu seras inscrit à la mailing list et tu recevras les news tous les mois des contenus concrets avec un résumé que je fais tous les mois. Moi je vais vous laisser à tous les trois le mot de la fin. Un petit mot pour conclure, ce que vous voulez. Nicolas, on va commencer par toi. Tu vas faire passer après la parole à qui tu veux.
Ouais, DevOps, c'est une culture, c'est du partage, c'est de la mesure et de l'automatisation et du lean. Et du coup, je vais laisser la parole à Nida.
Moi, je vais rien dire de plus sur le DevOps, parce que je pense que j'ai déjà tout dit aussi. N'oubliez pas N'oubliez jamais que l'informatique tourne sur du matériel. À toi, René.
Merci. Eh ben, je vais, pour terminer, ben, je vais vous souhaiter une bonne écoute et j'espère que ben, cet épisode vous aura intéressé. Il est un peu long, mais voilà. Et puis, je vais me permettre un tout petit message personnel parce que depuis peu, j'ai été embringué dans un... On fait des coding dojo avec quelqu'un qui s'appelle Xavier. Je sais qu'il écoute ce podcast, donc j'en profite pour lui faire un petit coucou. Et ben, Xavier, si tu nous écoutes, j'espère qu'on se voit bientôt.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.